Alors, de quoi allons-nous parler pendant cette récollection du début du mois de mai? Oh, c'est tout simple. Je voudrais simplement regarder avec vous, contempler la liturgie de cette dernière partie du printemps, ce début de l'été, disons. Oui, la liturgie du mois de mai et du mois de juin. La liturgie, les fêtes que nous célébrons actuellement. Il y a une série de fêtes qui va se succéder dans le calendrier liturgique, donc la fête de l'Ascension, mercredi, jeudi prochain. Et puis, il y a la Pentecôte, la fête de la Trinité, la fête de Dieu, et puis le Sacré-Cœur. Alors, nous avons l'habitude de ces fêtes qui se succèdent, et ce que nous oublions un petit peu, c'est le lien entre elles, ce qui les relie, pourquoi elles sont placées là. Nous avons un petit peu l'habitude de ces fêtes, la routine risque de s'y installer. Alors je voudrais simplement les regarder les unes après les autres pour essayer d'en pénétrer l'essentiel et de voir comment notre vie chrétienne peut s'y alimenter. Ensuite, dans une deuxième partie, eh bien, j'en tirerai, disons, des conséquences plus concrètes. Et puis enfin, je donnerai quelques petites consignes pratiques, quelques petits points pratiques. Alors voyons d'abord la fête de jeudi prochain, la fête de l'Ascension. La fête de l'Ascension, qui est une fête où nous admirons, nous contemplons la montée de notre Seigneur au ciel. Notre Seigneur qui, ayant accompli son œuvre, étant mort pour nos péchés, étant ressuscité, monte au ciel. Voici comment s'adresse à lui la liturgie. Et je lis les textes de la liturgie, je les lirai plusieurs fois parce que, bien souvent, nous avons besoin de prières. Et où chercher les textes des prières? Eh bien, tout simplement, dans les textes de la liturgie. Roi éternel et très haut, rédempteur des fidèles, à qui la mort détruite a offert le triomphe d'une gloire souveraine, vous montez au-dessus des astres, où vous appelez votre puissance sur toute chose, dont l'origine est céleste et non humaine. Pour que le monde créé à ses trois étages, le ciel, la terre et l'enfer, désormais soumis, fléchisse le genou devant vous. Les anges tremblent en voyant renverser le sort des mortels. La chair pêche et la chair purifie. Dieu règne dans la chair d'un Dieu. Soyez vous-même notre joie, nous attendant au ciel pour notre récompense, vous qui gouvernez l'édifice de l'univers, triomphant des joies du monde. D'ici-bas, nous vous le demandons instamment. Pardonnez à toutes les fautes et soulevez vers vous les cœurs par la grâce céleste, afin qu'au moment où soudain vous commencerez à briller sur la nuée du jugement, vous éloigniez les châtiments mérités et rendiez les couronnes perdues. Ô Jésus, à vous soit la gloire qui rentrez en vainqueur au ciel ainsi qu'au Père et à l'Esprit Saint dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Notre Seigneur rentre en vainqueur au ciel. Alors pourquoi? Pourquoi quitte-t-il la terre? Pourquoi quitte-t-il ce monde? Eh bien, comprenez, notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, il a une vie glorieuse, il ne convient pas qu'il reste sur terre, il ne convient pas qu'il continue à vivre physiquement dans ce monde comme quelqu'un d'autre. Ce monde n'est pas le sien. Ce monde de la terre n'est pas le monde pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il y est resté quelque temps pour affirmer ses apôtres, mais ce n'est pas le lieu qui convient à une vie divine, à une vie ressuscitée. Et c'est pourquoi il dit à Sainte Marie-Madeleine, « Noli me tangere ». Lorsque Sainte Marie-Madeleine se précipite vers le Christ pour l'embrasser, pour l'étreindre, elle qui l'aimait tant, « Noli me tangere », ne me touche pas, ne me touche pas. Notre Seigneur ne veut pas être touché. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'il n'est pas possible qu'il y ait de promiscuité avec lui. Il n'est pas possible que le corps de notre Seigneur soit touché, côtoyé par la foule comme il l'était autrefois. Vous vous souvenez de cette femme qui voulait être guérie d'un flux de sang et qui a touché le manteau de notre Seigneur. Et quand notre Seigneur a demandé qui m'a touché, les apôtres ont commencé par dire quelle question idiote, on est compressé de toutes parts, alors c'est au milieu de la foule. Eh bien non, notre Seigneur n'est plus au milieu de la foule. C'est fini. Jésus est Dieu, son œuvre est accomplie. Alors il s'en va, il doit quitter la terre et il doit continuer son œuvre. Oui, il doit continuer son œuvre est éternelle et il doit continuer d'une autre manière. d'une autre manière. Et c'est là qu'intervient la Pentecôte. C'est là qu'intervient la Pentecôte. Le départ de Jésus-Christ, dont il est question dans l'Évangile, ce n'est pas seulement la passion, mais c'est aussi l'ascension. Notre Seigneur quitte la terre et il est remplacé par le Saint-Esprit. C'est ce qu'il a dit à ses apôtres en l'Évangile de Saint Jean, vous vous souvenez du passage. C'est les évangiles qu'on lit actuellement à la messe le dimanche. « Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre intercesseur qui soit à demeure avec vous pour toujours, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit ni le connaît, mais que vous vous connaissez parce qu'il est demeuré chez vous et il est en vous. Non, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai vers vous. » Je reviendrai vers vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Notre Seigneur prononce ces paroles le jeudi saint au soir. Mais ce sont des paroles qui s'appliquent à tout son départ jusqu'à l'ascension. Je m'en vais et je reviendrai vers vous. Je m'en vais, c'est-à-dire que mon corps quitte la terre. Je ne suis plus présent au milieu de vous comme je l'étais autrefois. Et je reviendrai. Je reviendrai comment? Je reviendrai par le Saint-Esprit. Je reviendrai par le Saint-Esprit. Il le dit un peu plus loin. Et maintenant que je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais du fait que je vous ai dit cela, la tristesse a envahi vos cœurs. Pourtant, c'est la vérité que je vous dis. Mieux vaut pour vous que je parte, car si je ne partais pas, l'intercesseur ne viendrait pas vers vous. Si je ne partais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le Christ n'avait pas le pouvoir d'envoyer le Saint-Esprit quand il était sur terre? Oui, bien sûr. Mais les hommes n'étaient pas capables de le recevoir. Ça ne servait à rien. Pour que le Saint-Esprit puisse venir sur terre, il fallait que le Christ quitte la terre. Il fallait que le Christ quitte la terre. Ça veut dire que l'œuvre de Jésus-Christ est continuée par le Saint-Esprit. Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ est toujours présent sur terre, mais pas par son corps, d'une autre manière. Il est présent par l'action du Saint-Esprit. Il est présent par l'action du Saint-Esprit. Donc l'ascension demande la Pentecôte, bien sûr. L'ascension demande la Pentecôte. Elle demande que le Saint-Esprit vienne remplacer le Christ. Si le Christ est parti, c'est pour que son œuvre continue de manière spirituelle et invisible, par l'action du Saint-Esprit. Et c'est ce que chante l'Église à l'hymne des matines de la Pentecôte. Déjà le Christ était monté aux cieux, retourné d'où il était venu, pour donner le Saint-Esprit qui fera jouir de la grâce du Père. À la troisième heure du jour, tout à coup, le monde résonne d'un grand bruit qui annonce que Dieu vient aux apôtres en prière. C'est donc de la lumière du Père que procède ce beau feu de sainteté qui vient remplir de l'ardeur du Verbe les cœurs fidèles au Christ. Feu de sainteté qui vient remplir les cœurs fidèles. Ainsi comblés, les cœurs sont en joie, sous le souffle du Saint-Esprit, et répandant des paroles diverses, ils publient les merveilles de Dieu. Vous savez, les apôtres qui sortent et qui parlent. Qui parlent, qui prêchent, et tout le monde comprend. C'est-à-dire tous ceux qui, toutes les langues, tous les peuples qui étaient présents à Jérusalem, c'était tous des Juifs, mais des Juifs qui venaient de toute la diaspora qui venait du monde entier, qui parlait donc des langues différentes, tout le monde les comprend. Y compris de tous les peuples grecs, latins, barbares, qui sont plongés dans la stupeur, ils parlent les langues de tous. Alors les Juifs incrédules, égarés par un esprit mauvais, accusent à tort les fidèles du Christ d'être ivres de vin nouveau. Mais Pierre leur oppose les miracles accomplis et convainc de fausseté ces incrédules en s'appuyant sur les témoignages de Joël, Joël qui avait dit que les fils des Hébreux prophétiseraient. Voilà. Voilà ce qui se passe à la Pentecôte. Notre Seigneur est remplacé par le miracle de l'Esprit Saint. Cela veut dire que c'est l'Église, et je voulais en venir là, c'est l'Église qui remplace le Christ sur terre. Aujourd'hui, le Christ est présent, il est visible, mais d'une autre manière. Il n'est pas visible par son corps, comme si les apôtres pouvaient le toucher. Il est visible d'une manière mystique par l'Église, de manière mystique, grandiose même, extraordinaire, mais c'est pas spectaculaire. Oui, c'est extraordinaire, c'est miraculeux, c'est magnifique, mais ça n'est pas spectaculaire. Oui. Le Saint-Esprit agit dans l'Église, et c'est l'Église qui remplace le Christ sur terre. L'Église, c'est-à-dire c'est-à-dire les apôtres, et puis les fidèles, et puis aujourd'hui le pape, les évêques, les prêtres et vous-même. Bon, je sais bien que on peut se demander parfois dans quelle mesure le pape et les évêques représentent le Saint-Esprit, mais en tant qu'ils sont papes et en tant qu'ils sont évêques, ils représentent le Saint-Esprit et ils représentent le Christ, que voulez-vous. Bon, et l'Église subit comme notre Seigneur a subi sa passion, eh bien l'Église subit des difficultés, peu importe. Mais le Christ est présent dans l'Église, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit dans l'Église. C'est ce que nous dit encore l'antienne à la Magnificat, l'antienne des deuxièmes vêpres, de la Pentecôte. Deuxième vêpre de la fête de la Pentecôte. Aujourd'hui sont accomplis les jours de la Pentecôte. Alléluia. Aujourd'hui, l'Esprit Saint est apparu sous forme de feu aux disciples. Il leur a conféré les dons. Il les a envoyés dans le monde entier, prêcher et rendre témoignage. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Alléluia. L'Église chante cela le soir de la Pentecôte. Et remarquez bien, aujourd'hui sont accomplis les jours de la Pentecôte. Alléluia. Aujourd'hui, l'Esprit Saint est apparu sous forme de feu, etc. etc. Aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce que c'est actuel. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Si vous avez bonne mémoire, vous devez vous souvenir que ce mot « odier » aujourd'hui s'entend encore dans la liturgie à d'autres jours. Le jour de Noël, odier. Le jour de l'Immaculée Conception, odier. L'antienne de Noël, c'est aussi, commence par le même mot. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'action de l'Esprit Saint, ce miracle de la Pentecôte, est toujours actuelle. Il se produit aujourd'hui. Sans doute, nous ne voyons pas des langues de feu comme les apôtres. Mais la même réalité se produit. L'effusion de l'Esprit Saint continue dans l'Église et elle continue dans nos cœurs à tous. Odier, c'est aujourd'hui. Et quelle est l'œuvre de l'Esprit Saint dans l'Église? Quelle est l'œuvre de l'Esprit Saint dans l'Église? La première œuvre de l'Esprit Saint dans l'Église, la première chose, eh bien, c'est de révéler Dieu, c'est de nous parler de Dieu, c'est de nous faire comprendre qui est Dieu. C'est ce que notre Seigneur avait dit aux apôtres. Maintenant, vous ne pouvez pas le comprendre, mais l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses. C'est-à-dire que par l'Esprit Saint, l'Église connaît le mystère de Dieu. Il est donc tout normal que l'on célèbre ce mystère de Dieu à l'octave de la Pentecôte. Je veux parler de la fête de la Sainte Trinité. Parce que la révélation la plus grande, la révélation la plus importante, la plus magnifique, c'est celle qui nous fait pénétrer dans la réalité divine, c'est la révélation de la Trinité. C'est de révéler le mystère de Dieu. C'est l'unique réalité, vous comprenez, l'unique réalité, c'est Dieu. Et la première œuvre de l'Église, c'est de connaître Dieu et de contempler Dieu. L'Église est par essence contemplative. L'Église est contemplative. L'Église est contemplative et je crois qu'il faut faire... Il faut faire nos délices de cette liturgie trinitaire, de ce que nous voyons tout d'abord dans notre liturgie de tous les jours, puisqu'on parle sans arrêt de la Sainte Trinité dans la liturgie de l'Église, ne serait-ce que par le Gloria Patri. Et puis vous noterez l'office de la Sainte Trinité également. L'office de la Sainte Trinité, en fait, ne fait que répéter la même chose. Si vous regardez vos missels, que vous lisez les textes de les vêpres de la Trinité, vous verrez, ils répètent la même chose. Gloire à vous, ô Trinité, dans l'égalité, divinité une qui êtes avant tous les siècles, maintenant et à jamais. Louange et gloire éternelle à Dieu le Père, au Fils, en même temps qu'au Saint-Esprit. Que la gloire et la louange résonnent en toutes les bouches pour le Père, le Fils qui l'engendre, qu'elles retentissent pareillement pour l'Esprit Saint. Que la louange à Dieu le Père et au Fils son égal et à vous, Esprit Saint, dans une éternelle ferveur, résonne en notre bouche pendant toute l'éternité. Tout vient de lui, tout est par lui, tout est en lui. En fait, la liturgie ne fait que répéter sans cesse cette louange trinitaire. Et c'est bien nécessaire parce que c'est la chose la plus importante que l'Église a à nous dire. Cette révélation de la Trinité jette un regard lumineux, une lumière sur notre vie intérieure, sur notre vie personnelle. Le mystère de la Trinité c'est une chose que nous vivons en nous-mêmes. Ça aussi, c'est grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait vivre en nous la Trinité. C'est par l'Esprit-Saint, dit Saint-Jean de la Croix, que l'âme au ciel, et déjà en partie sur terre, sera capable de produire en Dieu la même aspiration d'amour que le Père produit avec le Fils et le Fils avec le Père. Cette aspiration n'est autre que l'Esprit-Saint lui-même. La transformation de l'âme ne serait ni réelle ni complète si elle ne l'obtenait à un degré saisissable et évident dans les trois personnes. L'âme unie à Dieu, transformée en Dieu, aspire en Dieu. Dès que Dieu, par sa grâce, unit l'âme à la Sainte Trinité, elle y accomplit son œuvre de connaissance et d'amour dans la Trinité. Autrement dit, nous vivons de la vie trinitaire. On peut dire que le Père engendre son Fils en nous et qu'avec le Fils, il spire le Saint-Esprit. La vie trinitaire, cette vie de communion des trois personnes divines, existe en nous. Elle se produit en nous. C'est pourquoi la révélation de la Trinité est tellement importante, parce qu'elle nous fait comprendre que nous vivons de cette vie de Dieu, que la vie de la Trinité est en nous, que la vie de Dieu est en nous. Et cette vie de Dieu que nous avons dans nos reins, dans nos âmes, cette vie de la grâce, c'est la vie de la Trinité. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la conclusion normale de la Pentecôte. Et c'est la chose la plus importante. Il faut d'abord commencer par cela. Et puis, telle est la première œuvre de Jésus-Christ. La première œuvre de Jésus-Christ, c'est de se donner à nous, de donner Dieu, de donner la vie divine, la vie de communion qu'il a avec le Père et le Saint-Esprit nous est transmise. Première chose. Une deuxième chose que Jésus est venu faire sur terre, eh bien c'est son sacrifice, bien sûr. Il n'a pas fait que révéler Dieu, il s'est offert sur la croix. Il a offert son sacrifice sur la croix. Eh bien, ce sacrifice de la croix, il est terminé. Il a été fait une fois pour toutes. Eh bien, Jésus-Christ, par l'Esprit-Saint, a donné à l'Église de posséder le sacrifice de la croix. Il faut comprendre que Jésus continue de vivre dans l'Église, d'accomplir son sacrifice tous les jours. Et ce sacrifice de la croix, et cette résurrection du Christ qui s'accomplit tous les jours, vous savez ce que c'est le sacrement de l'Eucharistie. L'Eucharistie, ce n'était pas autre chose que ça. C'est la mort et la résurrection du Christ qui sont rendus présents sur l'autel, sous l'apparence du pain et du vin. C'est cela l'Eucharistie, voyez-vous. L'Eucharistie, c'est Jésus, oui, mais Jésus, pas dans son corps physique, dans son apparence physique, telle que les apôtres l'ont vu, mais c'est quand même Jésus-Christ en toute réalité, Jésus qui vit, qui prie et qui offre le sacrifice avec nous, en nous et par nous. Je veux dire que l'Eucharistie, ce n'est pas seulement Jésus-Christ présent. On s'arrête souvent à cela. On dit que l'Eucharistie, c'est la présence réelle. Très bien, c'est vrai. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus. C'est Jésus-Christ dans toute sa vie, dans toute son œuvre. C'est Jésus-Christ avec nous qui offre son sacrifice. Quelle est la différence entre la messe et la croix? Eh bien, c'est qu'à la messe, nous sommes avec Jésus et Jésus est avec nous. Et le sacrifice de la croix, nous l'offrons avec lui. Nous offrons le sacrifice de la croix avec lui. C'est le sens de la messe. Sans doute, nous ne l'offrons pas de la même manière, je sais. Surtout aujourd'hui, il faut faire attention. Bon, les laïcs et les prêtres n'ont pas la même fonction à la messe, c'est vrai. Et sans prêtre, il ne peut pas y avoir de messe. La messe est faite par le prêtre. Mais il n'empêche que vous participez tous à cette offrande. L'Eucharistie, c'est l'offrande de toute l'Église. Donc, c'est Jésus qui offre avec nous le sacrifice. C'est Jésus qui l'offre en nous. Je veux dire que celui qui meurt à la messe, la victime de la messe, ce n'est plus seulement Jésus-Christ, mais c'est chacun des chrétiens. Chacun des chrétiens, chacun des baptisés, est une victime à la messe. Il faudrait y penser quand nous assistons à la messe, voyez. Nous sommes victimes avec Jésus-Christ. Sur la croix, il n'y avait que Jésus-Christ. À la messe, il y a toute l'Église. Donc chacun d'entre nous, nous sommes victimes avec Jésus-Christ. Jésus-Christ offre son sacrifice en nous. Et enfin, il l'offre par nous. C'est-à-dire que à la messe, Jésus-Christ offre son sacrifice par les mains du prêtre. Par les mains du prêtre. C'est le prêtre qui offre le sacrifice. Il faut dire que que c'est le prêtre qui offre la messe, et il faut dire aussi que c'est Jésus-Christ qui offre la messe. Les deux sont vrais. Les deux sont vrais, c'est Jésus-Christ qui offre la messe par les mains du prêtre, et de manière secondaire aussi, par les mains des fidèles, dans la mesure où ils assistent activement à la Sainte Messe, par l'intermédiaire du prêtre, voyez. Donc c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui continue, l'Eucharistie, voyez-vous. L'Eucharistie, c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui continue, c'est le miracle de la Pentecôte, c'est le miracle de la Pentecôte. L'ascension, la Pentecôte, qu'est-ce que c'est? C'est Jésus-Christ qui quitte la terre et qui est remplacé par l'Église. Et que fait l'Église? L'œuvre du Christ, le sacrifice de la croix, qui continue dans l'Eucharistie. L'Église remplace le Christ sur terre, elle offre le sacrifice de la croix sur terre. Voilà. Et tout ceci grâce à l'effusion du Saint-Esprit. Au faible, il donna son corps en aliment, et au triste, il donna son sang en boisson, disant « Prenez la coupe que je vous lis, buvez-en tous ». C'est ainsi qu'il institua ce sacrifice, je cite l'hymne, le Sacris Solemnis, qui est une des hymnes du Saint-Sacrement. C'est ainsi qu'il institua ce sacrifice, dont il voulut confier le ministère aux prêtres seuls, auxquels donc il convient d'en user pour eux-mêmes et d'en donner aux autres. Le pain des anges devient le pain des hommes, le pain du ciel met un terme aux figures. Des anges, non pas que les anges consomment l'Eucharistie, mais tout simplement ils contemplent Jésus-Christ face à face. De ce point de vue-là, nous avons ce pain des anges. Donc, le sacrifice de la croix continue aujourd'hui. Jésus-Christ est présent aujourd'hui. Autant dans les semaines qui ont suivi la résurrection, notre Seigneur était présent au milieu de ses apôtres. Il a offert son sacrifice dans son corps, il est ressuscité dans son corps, et maintenant la même chose se passe dans son corps mystique. Et ceci nous le voyons, seulement il faut le voir par les yeux de la foi, bien sûr, il faut le voir par les yeux de la foi. Nous devons contempler Jésus-Christ agissant dans l'Eucharistie. Puisque le Verbe dit « Ceci est mon corps », acceptons-le, croyons-le, contemplons-le lui-même des yeux de l'Esprit. Car le Christ ne nous a rien donné de sensible, mais à la vérité, sous des choses sensibles, tout s'adresse à l'intelligence. Alors il en va de même pour le baptême. Par l'eau, chose sensible, un don nous est conféré. Mais la réalité spirituelle qui s'accomplit, c'est la naissance et la rénovation. Car si tu n'avais point de corps, lui-même t'aurait accordé des dons sans revêtement corporel. Mais puisque l'âme est unie au corps, il te présente des choses spirituelles sous des formes sensibles. Alors, les choses spirituelles, le sacrifice de la croix, nous est représenté par des choses sensibles, les apparences du pain et du vin. Combien disent maintenant, je voudrais le voir lui-même, son visage, ses vêtements. Il nous arrive de nous dire, nous aimerions voir notre Seigneur Jésus-Christ comme les apôtres l'ont vu. Eh bien, tu le vois, tu le touches lui-même, tu le manges lui-même. Toi, sans doute, tu désires voir ses vêtements. Mais lui, il te permet non seulement de le voir, mais encore de le toucher, de le manger et de le recevoir au-dedans de toi. D'où la pureté qu'il nous faut pour nous approcher du sacrifice. Donc le mystère de l'Eucharistie n'est pas autre chose que l'œuvre du Christ qui continue, sa passion et sa résurrection. La messe rend présent aussi cette victoire du Christ qui est la résurrection. Et tous ces cycles de fêtes, l'ascension, la Pentecôte, l'Eucharistie, la fête de Dieu, est conclue dans la fête du Sacré-Cœur. Mais vous savez que le Sacré-Cœur, c'est une fête peut-être qui a été rajoutée récemment, c'est au XIXe siècle qu'on a rajouté cette fête, mais c'est bien loin d'être un supplément ou une annexe, c'est toute la conclusion, c'est tout l'aboutissement du cycle des fêtes, c'est vraiment le résumé de toute la liturgie. Regardez un peu toute l'année liturgique. Eh bien, tous les mystères de la vie de Jésus-Christ ont défilé, sont passés devant nos yeux. Il y a eu la naissance de Jésus-Christ, son épiphanie, le carême, c'est-à-dire la vie pénitente de Jésus-Christ, et puis la passion de Jésus-Christ, sa résurrection, son ascension, tous les épisodes, tous les éléments de la vie de Jésus-Christ ont défilé. Mais tout est résumé dans l'amour. Pourquoi Jésus-Christ est-il venu sur terre ? Par amour pour nous. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il fait pénitence pendant 40 jours ? Par amour pour nous, il n'avait pas besoin de faire pénitence lui-même. Pourquoi a-t-il offert son sacrifice ? Pourquoi a-t-il souffert sa passion ? Par amour pour nous. Pourquoi quitte-t-il la terre et se fait-il remplacer par l'Église ? Là encore, c'est un fruit de son amour. C'est un fruit de son amour. La vie de l'Église, qu'est-ce que c'est la vie de l'Église, notre vie liturgique dans l'Eucharistie ? C'est un échange d'amour avec Jésus-Christ. La vie chrétienne n'est pas autre chose que ça. Notre vie, c'est un échange d'amour avec Jésus-Christ. Tout est résumé dans cet amour. Et qu'est-ce qui bloque notre vie spirituelle ? Qu'est-ce qui la rend tiède ? Qu'est-ce qui est l'origine de toute la médiocrité qui nous entoure ? C'est que nous n'aimons pas. Il ne suffit pas, nous le savons bien nous-mêmes, hein ? Il ne suffit pas d'avoir une bonne doctrine. S'il n'y a pas la charité, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas la charité, cela ne sert à rien, vous voyez. Alors qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie ? Mais c'est que nous n'aimons pas. Nous n'aimons pas assez. C'est ce qui ne va pas dans notre vie chrétienne. Alors cette image du Sacré-Cœur, c'est l'icône de l'amour du Christ. Et le fait que ce cœur soit percé et qu'il en coule du sang et de l'eau, cela veut dire que c'est Jésus qui se donne et qui se diffuse dans l'Église, que toute la vie de l'Église, c'est l'amour du Christ qui se répand. Oui, le cœur percé de Jésus-Christ, le fait que, c'est très important, le fait que le cœur de notre Seigneur, alors qu'il était déjà mort, que le sacrifice était déjà accompli, il est très important que ce cœur ait été percé et qu'il en coule du sang et de l'eau. Parce que c'est l'image de la vie de l'Église. La vie de l'Église, c'est ce sang et cette eau qui coulent sans cesse du côté de notre Seigneur et qui se diffusent. La vie de l'Église, notre vie personnelle, c'est comme un échange de cœur. Il est arrivé que chez certains mystiques, c'est le cas de Sainte Catherine de Sienne, entre autres, notre Seigneur leur ait échangé leur cœur. Dans une vision, notre Seigneur Jésus-Christ a pris le cœur de Sainte Catherine de Sienne et il a mis le sien à sa place. Cela veut dire tout simplement que dans la vie chrétienne, la vraie vie chrétienne, la vie fervente, eh bien, nous échangeons notre amour avec notre Seigneur Jésus-Christ. Notre cœur est changé. Il ne faut pas ici y voir, bien sûr, un miracle physique, il ne s'agit pas de ça. Mais notre cœur, notre vie intérieure, autrement dit, notre vie intérieure est échangée avec celle du Christ. Le cœur de Jésus-Christ, c'est l'image de son amour. C'est l'image de son âme, c'est l'image de sa vie intérieure, bien sûr. Il ne s'agit pas ici de voir la vie biologique, ça ne nous intéresse pas. Hein. Ce qui compte, c'est l'amour intérieur, la vie intérieure de Jésus-Christ. Eh bien, cette vie intérieure de Jésus-Christ nous est donnée. La lance brandie par le soldat, nos péchés la dirigent, voyez-vous. C'est l'origine de l'amour de Jésus-Christ. Il nous aime pour nous sauver. Son amour nous sauve. La lance brandie par le soldat, nos péchés la dirige. Le fer de la pointe cruelle, la faute mortelle l'aiguise. Du cœur fendu naît l'Église, épouse du Christ. C'est la porte placée sur le côté de l'arche pour le salut du genre humain. Vous vous souvenez de l'histoire sainte ? Vous vous souvenez que l'arche de Noé était parfaitement close de partout. Il n'y avait pas de fenêtre, pas de porte, rien. Il n'y avait qu'une ouverture sur le côté. Et en rentrant dans cette ouverture, Noé, ses fils, les femmes de ses fils et les animaux ont été sauvés du déluge. Cette arche de Noé, c'est l'image de l'Église et c'est aussi l'image du Sacré-Cœur. L'homme est sauvé en entrant dans ce Sacré-Cœur. De ce cœur, la grâce ne cesse de couler comme un fleuve aux sept canaux, pour que nous y lavions dans le sang de l'agneau nos robes souillées. Voilà ce que nous apporte la fête du Sacré-Cœur. C'est le résumé de toute notre vie et c'est le résumé de toute l'histoire de la vie du Christ. L'amour qui est à l'origine de toute chose, cet amour qui est caché en Dieu de toute éternité et qui s'est rendu visible par Jésus-Christ et qui est né à Bethléem et qui est mort sur la croix au Golgotha et qui maintenant continue de vivre dans l'Église. Afin que l'Église, je cite Saint Bonaventure, afin que l'Église fût formée du côté du Christ, mourant sur la croix, et que s'accomplisse cette parole de l'Écriture, ils ont vu celui qu'ils ont transpercé, une divine ordonnance permit qu'un des soldats ouvrit ce côté sacré en le perçant de sa lance. Et c'est ainsi que par l'effusion du sang et de l'eau fut versé le prix de notre salut, qui en s'écoulant de la source cachée de ce cœur, devait donner au sacrement de l'Église la vertu de conférer la vie de la grâce, et de devenir dès lors, pour ceux qui vivent dans le Christ, le breuvage d'eau vive jaillissant pour la vie éternelle. Mais en disant qu'il fallait s'approcher du cœur du Christ pour s'y abreuver du sang et de cette eau. C'est une image qui peut nous surprendre. Il faut comprendre que cette eau et ce sang symbolisent toute la vie spirituelle, toute la vie liturgique, toute la vie de l'Église. Eh bien, voyez, notre pratique religieuse, toute notre vie liturgique et les prières que nous récitons, toute notre vie chrétienne ne valent rien si ce n'est pas inspiré auprès du cœur du Christ, si nous ne sommes pas près du cœur du Christ, si ce n'est pas l'amour qui l'inspire, autrement dit. Puisque nous sommes venus une fois au cœur du très doux Seigneur Jésus et qu'il nous est bon d'y demeurer, ne nous en séparons pas facilement. Oh, qu'il est bon et joyeux d'habiter dans ce cœur. Riche trésor, précieuse perle est votre cœur, très bon Jésus. Nous les trouvons dans le champ labouré de votre corps. Qui rejetterait cette perle? Que ne donnerais-je plutôt toutes les perles, que n'échangerais-je toutes mes pensées, toutes mes affections, pour acquérir celles-ci en confiant toutes mes inquiétudes au cœur du bon Jésus, et sans tromperie, il me nourrira. Aussi, après avoir trouvé ce cœur qui est le vôtre et mien, très doux Jésus, je vous prierai comme mon Dieu, recevez mes prières. Votre côté a été percé pour que l'entrée nous en fût ouverte. Votre cœur a été blessé pour que nous puissions y habiter à l'abri des troubles du dehors. Quoi qu'il en soit, voilà pourquoi il a été blessé. C'est pour que par la blessure visible, nous voyions la blessure invisible de l'amour. Comment cet amour ardent pouvait-il mieux se révéler qu'en permettant à la lance de blesser non seulement le corps, mais aussi le cœur lui-même? La blessure de la chair révèle donc la blessure de l'âme. Et ce que le sécrateur attend de nous, eh bien, c'est notre amour en retour. C'est notre amour en retour. Donc il ne faut pas avoir peur de ces images. Nous rentrons dans le cœur de Jésus pour vivre d'amour et pour vivre tout ce qu'il a vécu, pour être dans l'Église et pour accomplir tout ce qu'il a fait. On peut prendre une autre image, l'image à la messe de la petite goutte d'eau qui se perd dans le vin et qui devient le sang du sacrifice. L'eau est ajoutée à l'offertoire dans le vin, et ce vin et cette eau devient du vin par ce mélange, et il se transforme dans le sang du Christ. Il devient le sang du Christ. C'est l'image de la vie chrétienne, c'est l'image de notre vie. Notre vie qui se fond dans la vie du Christ, qui se fond dans la vie de l'Église. Notre vie n'est plus indépendante, elle devient la vie de l'Église et nous offrons le perpétuel sacrifice. Chacun de nous ainsi devient comme une petite église. Ce que le prêtre dit, Suscipe Sancta Trinitas, Suscipe Sancte Pater Omnipotens Eternedus, Ante Immaculatam Ostiam, recevez, Père Saint, cette hostie immaculée au début de l'offertoire, la première prière de l'offertoire. Le prêtre offre à Dieu cette hostie immaculée. Eh bien, cette hostie immaculée, c'est l'Église, et c'est nous aussi. C'est le Christ, c'est l'Église, et c'est chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous s'offre à la messe parce qu'il est devenu un avec Jésus-Christ. Oui. La vie du Sacré-Cœur, c'est de faire tous ensemble avec le Christ la grande œuvre de charité. La grande œuvre de charité qui a été commencée le jour de l'Annonciation et qui s'est accomplie, qui s'est achevée le jour de la résurrection, cette œuvre de charité continue aujourd'hui par nous. et avec le Christ, en étant un avec lui, comme la goutte d'eau est une avec le vin, eh bien nous accomplissons l'œuvre de charité. Et cette œuvre de charité, eh bien c'est de sauver le monde. Cette œuvre de charité, c'est de sauver le monde. Pourquoi Jésus-Christ est-il venu ? Il est venu pour nous sauver du péché. Il est venu pour sauver le monde. Quel est le but de notre vie ? C'est de vivre de cet amour, de vivre de ce cœur et de le donner au monde. Et de le donner au monde. Notre Seigneur dit, je suis venu allumer le feu sur la terre, je suis dans l'angoisse jusqu'à ce qu'il soit allumé, tant qu'il n'est pas allumé. Le feu, vous souvenez de l'apparition à Sainte Marguerite Marie ? Le Sacré-Cœur est apparu environné de flammes, comme source de flammes. Le Sacré-Cœur est venu se convertir et sauver le monde. Et ce feu doit se répandre sur terre. Qui doit le répandre sur terre ? Nous, bien sûr. Si le Christ n'est plus présent sur terre, c'est parce qu'il nous laisse le travail. Il nous laisse son œuvre. Il nous laisse son œuvre de faire le travail, de transmettre ce feu sur terre. Et c'est pour cela que nous avons reçu le sacrement de confirmation. Certains enfants vont recevoir le sacrement de confirmation à la Pentecôte, et vous-même, vous l'avez tous reçu. Eh bien, à cette occasion, il serait bon d'y repenser. Comment se fait le sacrement de confirmation, vous le savez? On trace sur le front un signe de croix avec l'huile du Saint-Crème. L'huile du Saint-Crème est une huile consacrée qui sert à la consécration des prêtres, des pierres, d'autel et des calices. Les objets consacrés sont marqués par le Saint-Crème. Cela veut dire que nous sommes consacrés. Dans ce Saint-Crème, il y a du baume. Et le baume est une substance qui répand une odeur pour signifier que notre vie doit être une bonne odeur aux yeux des hommes. Le fait que cette matière soit de l'huile signifie la force. L'huile est symbole de force. Eh bien, c'est l'objet même du sacrement de confirmation. Quelle est la différence entre le sacrement de baptême et le sacrement de confirmation ? C'est que le sacrement de baptême nous donne un caractère pour poser nos actions personnelles de chrétiens, pour agir de manière individuelle et personnelle, pour notre vie personnelle. Un point, c'est tout. La grâce baptismale est pour faire un chrétien, pour lui, personnellement, tout seul. Le sacrement de confirmation n'est pas donné pour agir de manière personnelle, nous avons déjà le baptême, mais pour agir pour les autres, pour rayonner, pour être des véritables soldats du Christ. Telle est la différence entre les deux sacrements, le sacrement de baptême et le sacrement de confirmation, voyez-vous. Si vous vivez en bon chrétien pour vous-même, mais sans plus, vous êtes fidèle aux grâces du sacrement du baptême, vous n'êtes pas fidèle aux grâces du sacrement de confirmation. Le sacrement de confirmation est donné non pas pour soi, mais pour les autres. Disons qu'il est donné d'abord pour nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas d'abord, mais il est ordonné pour poser des actes publics. Une autre différence, mais c'est la même, il y a la différence entre le sacrement de baptême et le sacrement de confirmation, la différence qu'il y a entre les enfants et les adultes. Le baptême, c'est le sacrement des enfants. La confirmation, c'est le sacrement des adultes, même si on le donne à l'âge de 7 ans ou vers 10 ans, parce que l'enfance et l'âge adulte au plan spirituel, ce n'est pas la même chose que l'enfance et l'âge adulte au plan physique. Mais celui qui reçoit le sacrement de confirmation est capable d'agir en adulte. Je cite ici saint Thomas d'Aquin, tout simplement. Ce sacrement n'est pas seulement ordonné à la sanctification de l'homme en lui-même, il n'est pas donné seulement pour que l'homme soit sanctifié en lui-même, mais il est donné pour un certain combat extérieur. Les théologiens sont très précis. Il s'agit d'un combat extérieur. D'où le signe de la croix qui est marqué sur le front. Par le sacrement de confirmation, il est donné à l'homme un certain pouvoir spirituel. Il y a un réel pouvoir. Hein. Il faudrait en être convaincu. Hein. Quand on se sent un peu faible dans les situations extérieures, quand on doit faire de l'apostolat ou une action politique quelconque et qu'on se sent un petit peu faible, qu'on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, eh bien, il faut croire aux grâces du sacrement de confirmation, aux grâces qui ont été données pour cela. Par le sacrement de confirmation, il a donné à l'homme un pouvoir spirituel pour des actions sacrées, en plus de celles qui lui sont données par le baptême. Il y a des actions sacrées que l'on peut poser par la confirmation et qu'on ne peut pas faire par le baptême. Car dans le baptême, on reçoit le pouvoir de faire ce qui se rapporte au salut personnel, en tant qu'on vit en soi-même. Dans le baptême, on reçoit le pouvoir d'agir pour faire son salut, tout simplement. Bon. Mais dans la confirmation, on reçoit le pouvoir d'agir pour ce qui concerne le combat spirituel contre les ennemis de la foi. La confirmation ne nous est pas donnée pour notre salut personnel, c'est déjà fait dans le baptême. Mais pour le combat extérieur contre les ennemis de la foi. Et l'exemple, bien sûr, mais c'est les apôtres. Les apôtres au moment de la Pentecôte. Je cite encore saint Thomas. Dans ce sacrement est donnée la plénitude du Saint-Esprit pour la force spirituelle qui convient à l'âge parfait. En effet, lorsque l'homme est parvenu à un âge parfait, il commence à communiquer ses actions aux autres, alors qu'auparavant, il agissait uniquement pour lui-même. Bien. Et oui, la différence entre un adulte et un enfant, elle est là. C'est que l'enfant s'occupe de lui-même. Il vit en univers, je dirais, individuel, personnel. Tandis que l'adulte, en général, a des responsabilités, ne serait-ce que par le fait qu'il exerce un métier. Il a une vie publique. L'enfant, le petit enfant, ne sort pas de la famille. Il est inconnu. L'enfant n'est vu que lorsque la famille est visitée. Tandis qu'au contraire, l'adulte sort à l'extérieur. Bon. Eh bien, voilà pourquoi le sacrement de confirmation est donné pour la vie extérieure. De manière plus concrète, si vous préférez, c'est le sacrement de confirmation qui est à l'œuvre dans le martyr. Par exemple, le martyr qui rend témoignage du Christ par sa mort. Ce qui ne veut pas dire que Dieu ne puisse pas donner sa grâce, même à ceux qui n'ont pas le sacrement de confirmation. Il y a eu des martyrs qui n'avaient pas la confirmation, il y avait même des martyrs qui n'étaient pas baptisés. Des catéchumènes qui sont morts martyrs et qui n'étaient pas baptisés. Parce que Dieu leur a donné sa grâce de manière extraordinaire. Mais l'ordre normal des choses, l'action normale de Dieu, c'est la confirmation. C'est après la confirmation. Le martyr, l'apostolat découle de la confirmation et l'action politique également, l'action politique chrétienne, découle de la confirmation. Ce qui veut dire que le chrétien qui se contente de s'occuper de son salut personnel, qui veut faire son salut personnel, qui veut se sauver, un point c'est tout, et qui ne s'occupe pas de ce qui se passe autour de lui, celui-là est fidèle aux grâces du baptême, il n'est pas fidèle aux grâces de la confirmation. Voyez donc que ce n'est pas facultatif. Certains peuvent se dire, oui, l'apostolat, la politique, c'est très gentil, mais bon, c'est des vocations spéciales, ça, c'est pas fait pour moi. Bien, si c'est pas fait pour vous, c'est vous qui êtes un cas spécial. Le cas spécial, c'est celui, précisément, qui n'est pas fait pour l'apostolat, parce que s'il a reçu la confirmation, en fait, il est fait pour ça. Bon, de différentes manières, c'est entendu, hein. Et puis je ne dis pas que tout le monde doit rentrer au séminaire pour... Bon, c'est le caractère sacerdotal, c'est autre chose. Bon, mais chacun a sa place, c'est entendu. Il faut comprendre l'apostolat au sens le plus large du terme, et la politique aussi, bien sûr. Mais cela découle nécessairement du sacrement de confirmation. Bon, je pense que si vous êtes ici, disons, vous en êtes convaincu. Je ne pense pas vous avoir apporté quelque chose de vraiment nouveau. Mais je crois que ça ne serait pas inutile que ça puisse se savoir à l'extérieur et qu'il faut en parler. Il faut savoir le dire. Il faut savoir le dire à ceux que nous côtoyons autour de nous et qui sont bons catholiques, apparemment, pour autant qu'on puisse être, on n'est jamais parfait, mais enfin qui disons, sont fidèles aux pratiques de l'Église. Et je crois qu'il n'est pas inutile de leur dire, en toute charité, bien que l'apostolat fait partie des charges qui découlent de la confirmation. Apostolat sous beaucoup de formes, hein, c'est entendu, mais cela découle du sacrement de confirmation. C'est une obligation. On rend le sacrement de confirmation complètement inutile. Il ne faudrait quand même pas que le sacrement de confirmation soit donné, eh bien parce que, mon Dieu, il est normal qu'à l'âge de 7, 8, 10 ans, selon les cas, on donne le sacrement de confirmation, mais en définitive, on ne sait pas pourquoi on le donne. Ben, c'est une habitude, alors on le fait pour faire comme tout le monde. Alors si c'est ça, c'est la catastrophe. Il faut quand même que ça ait des conséquences, et que ces conséquences, nous les vivions nous-mêmes. Alors, plutôt que de répéter la même chose, eh bien, je voudrais vous citer un exemple historique. Un exemple historique. Je veux parler d'une histoire, puisque ça date d'il y a une cinquantaine d'années. C'est un exemple qui est connu, mais il est bon de le rappeler. Je veux parler des Cristeros, les chrétiens du Mexique, dans les années 26-30, par là, 1920-1930. Alors, pour bien situer la chose, il faut se souvenir que le Mexique, après la conquête espagnole, a connu 3 siècles d'ordre chrétien paisible. Et il est devenu indépendant en 1821. Dès 1861, le président mexicain Juárez impose les premières lois anticatholiques. En 1911, les Nord-Mexicains, le plus souvent protestants, francs-maçons, voire marxistes, prennent le pouvoir. En 1917, il y a une constitution révolutionnaire qui instaure la dictature de l'État, supprime les corps intermédiaires et les syndicats catholiques et prévoit une série d'articles anticatholiques que le général Obregón n'applique pas encore, craignant la puissance de l'Église catholique. Le successeur d'Obregón, Calles, décide d'appliquer strictement la constitution. Il impose la prédication de l'athéisme dans les écoles du gouvernement. Uniques, gratuites et obligatoires. Bon. Notons que la résolution s'attaque toujours à la jeunesse, gage de l'avenir. Oui, bien sûr, les révolutionnaires ne sont pas idiots, ils savent que c'est à la jeunesse qu'il faut aller. Il confie à l'armée l'application des lois antireligieuses du régime précédent. Il promulgue une loi fédérale anticléricale. La résistance catholique s'organise, pas par les prêtres, encore moins par les évêques. La résistance catholique s'organise tout entière à l'initiative des laïcs. L'épiscopat finit par décréter la suppression du culte public pour le 31 juillet en représailles. Et c'est l'insurrection générale du peuple. Malheureusement, le clergé reçoit la consigne de se mettre à l'abri dans les chapelles privées des villes plutôt que de soutenir les combattants. Seule une centaine de prêtres prend le maquis pour aider la révolte des Cristeros. Oui, ça, c'est pas très glorieux pour le clergé. Vous voyez, quand on dit que la confirmation ordonne à la défense de l'Église, eh bien, vous voyez, ces chrétiens qui avaient la confirmation en faisaient plus que des prêtres qui avaient le caractère sacerdotal. Autrement dit, les troupes catholiques ont eu très très peu d'aumôniers parce que la plupart des prêtres ont préféré se cacher dans les villes. Cristeros de Cristo Reyes, il s'appelle Cristeros, pourquoi ? Ben, c'est une insulte qui a été forgée par les fédéraux, c'est-à-dire par les troupes gouvernementales. Les exemples des atrocités commises par les fédéraux sont très nombreux. Les armées fédérales chargent parfois au cri de « Viva el demonio ». Ici, ils sentent le drapeau noir aux tibias entrecroisés, c'est très clair au moins. Alors que les Cristeros répondent par le Christus vincit. Le combat est donc tout à fait clair. Le courage des jeunes, des filles en particulier, des mères chrétiennes, est extraordinaire. Parce que les dames et les jeunes filles ne participent pas immédiatement au combat, mais ce sont elles qui préparent toute l'intendance, y compris les munitions. Les soldats sont démunis de tout. Chez les jeunes filles, qui aident pour le ravitaillement, les munitions, les soins, le renseignement, l'espionnage si vous préférez, il y a eu des martyrs, torturés physiquement et moralement, pas une seule défection. Alors si nous avions le temps, je vous lirais des récits d'enfants, même de 8, 10 ans, qui ont été tués ou martyrisés, soit parce qu'ils aidaient les prêtres, soit parce qu'ils aidaient les combattants en portant des munitions ou autre chose. Ce courage trouve son explication dans un indomptable esprit de foi. Les enfants de 12 ou 13 ans quittent leur mère pour le combat. Réponse d'une fille, « Mamacita, tu ne voudrais tout de même pas que je rate le paradis maintenant qu'il est si bon marché. » On donne d'autres exemples, par exemple Manuel Manzano, de l'Association catholique de la jeunesse mexicaine, a combattu dans des conditions terribles et il est massacré le vendredi saint 1927. Et son corps a été retrouvé en 1942 sans corruption. Voilà quelle était l'œuvre des catholiques mexicains. La suite est assez intéressante. En 1929, la victoire militaire semble acquise aux Cristeros. Et c'est alors que le gouvernement fait des ouvertures à l'épiscopat, les évêques, qui s'empressent d'accepter les ouvertures sans en garantie sérieuse. Et le 21 juin 1929, ce sont les accords entre l'Église et l'État, et l'Église démobilise elle-même l'armée Cristera et lui fait déposer les armes. Et les règlements de compte feront des milliers de morts exécutés sommairement. Le triomphe de la Révolution est complet, les temples et les maisons religieuses confisquées ne sont pas rendus, une grande offensive est lancée en 1934 contre l'Église catholique, l'enregistrement des prêtres est maintenu, seulement 335 prêtres sont autorisés par les gouvernements, et aujourd'hui encore le port de la soutane est interdit au Mexique, et l'Église comme l'État et les médias évitent de parler de cette affaire-là. Bien. Il faut ajouter que l'accord des évêques a été approuvé par le Vatican, Pie XI glorieusement régnant. Bon, rien de nouveau sous le soleil, comme vous le voyez. Alors, vous voyez, il faut toujours se préparer à un combat héroïque qui est toujours possible. Mais pour nous, eh bien, c'est un exemple de réaction qui n'est pas à imiter immédiatement, parce qu'il faut l'imiter de manière intelligente, je vais y revenir. Mais c'est un exemple d'esprit. Cet esprit, il faudrait le transmettre. Arrêtez de... Vous comprenez, l'Église n'a pas besoin de gens qui passent leur temps à dire « Ah oui, oh, tout est fichu, le monde va mal, quel malheur, à quelle époque sommes-nous nés ?» Mais ça ne sert à rien. On a besoin de gens qui travaillent. Et c'est ce que disait Salazar. Il disait « Il y a trop de Jérémie dans ce pays. Des Jérémies qui pleurent assis, mais qui ne sont pas debout. » Des gens qui passent leur temps à pleurer. Alors, il nous faut prendre cette... Et c'est le fruit de la Pentecôte. C'est le fruit de la Pentecôte. Il faut vivre cet état d'esprit. Il faut retrouver le sens de l'héroïsme chrétien. Retrouver le sens de l'héroïsme chrétien. Or, ce que nous vivons actuellement, je pense qu'on pourrait le caractériser en l'appelant que nous vivons une sorte d'euthanasie du christianisme. C'est-à-dire la mort sous anesthésie. On est pris dans un espèce de tourbillon d'affaires, de vie moderne, et on ne s'en rend pas compte. Et l'esprit moderne, l'esprit de la Révolution, qui est antichrétienne, pénètre partout. Mais elle ne pénètre pas par une persécution violente, comme ce fut le cas au Mexique. Elle pénètre de manière beaucoup plus douce, par la musique, par l'habillement, par la manière de vivre, par les lectures, par les médias, etc. etc. Et c'est ça qu'il faut combattre. C'est ça qu'il faut combattre. De manière plus concrète, pour nous-mêmes, eh bien, il faudrait refuser cet esclavage doré dont nous sommes victimes. On a parlé à propos du rock en disant que c'était une musique satanique. Bon, c'est peut-être vrai, mais je dirais que c'est peut-être pas forcément le plus important. Parce que tout le monde ne sera pas d'accord et ça demande certaines études. Mais c'est une musique sans beauté qui est destructrice de la civilisation, destructrice des âmes. Bien. La plupart des catholiques en sont convaincus. Par contre, j'entends les catholiques qui le sont vraiment, mais à partir d'un certain âge peut-être, mais ce dont les parents ne sont pas souvent convaincus, c'est de la nécessité absolue d'interdire ce genre de musique chez eux. Alors on permet à des jeunes d'écouter ça quand ils ont 12, 13, 14 ans, et puis alors quand ils ont 17 ans et que ça prend des proportions épouvantables, alors on commence par interdire, mais c'est trop tard. C'est pas quand les gens ont 17 ou 18 ans qu'il faut commencer à faire quelque chose, c'est avant. Et le rock, c'est pas seulement dans les disques, mais c'est dans la radio, dans les cassettes, un peu partout. Alors je sais que ça pénètre partout, mais bon, je dis le rock et puis la musique moderne d'une manière générale, hein, c'est pas, faut pas se polariser là-dessus uniquement, mais c'est tout un état d'esprit, vous comprenez. On pourrait dire la même chose sur, je dirais, toute la pratique des vies chrétiennes, hein, sur les lectures en particulier, ou l'absence de lecture. Oui, il y a toute la culture moderne, autrement dit, voilà. Si on voulait parler de cela, il faudrait parler de la lecture, des médias, de tout l'esprit moderne, de cette culture moderne qui doit être bannie. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ou pratiquement à rien, d'aller à la messe tous les jours et puis de se retrouver dans cette culture moderne. Alors il y a des gens qui vont à la messe tous les jours, ou tous les deux, trois jours, ou qui font des pèlerinages, et puis quand ils rentrent chez eux, c'est la musique, c'est la télé, c'est les journaux, c'est n'importe quoi. C'est stupide, ça ne sert à rien du tout. Et alors, ces personnes viendront après s'étonner que leurs enfants tournent mal. Mais que voulez-vous? Il faut savoir ce que l'on veut. Bon, c'est un premier point. Donc, l'esprit moderne. L'individualisme. On ne veut pas sacrifier sa tranquillité personnelle pour l'œuvre du Christ. Voyez l'exemple de ces enfants, ou de ces jeunes qui sont partis pour l'armée Christera. Bien, ils ont dû quitter leur famille pour partir dans cette armée. Il faut comprendre la même chose pour nous. Il y a parfois, je parlais de l'apostolat tout à l'heure, eh bien l'apostolat peut nécessiter de sacrifier une certaine tranquillité personnelle ou même une certaine vie de famille, pour autant que la vie de famille elle-même ne soit pas en péril, bien entendu, parce que la vie de famille est nécessaire à l'Église. Mais attention, et en particulier pour la prière en commun, la nécessité, je veux dire, voyez, cet individualisme se manifeste bien souvent chez les catholiques, dans le fait qu'on cherche à sauver une certaine vie de prière personnelle ou une certaine vie familiale, mais quand il y a des œuvres d'Église qui demandent de sacrifier la tranquillité familiale, alors on se retranche chez soi. Alors, je veux parler, par exemple, des pèlerinages, des récollections, bon, vous n'êtes pas coupable puisque vous êtes ici, des messes, des solennités et autres. Très souvent, je connais le Valais quand même depuis un certain temps, j'ai constaté plusieurs fois que des jeunes étaient empêchés ou gênés de participer à des pèlerinages ou à des réunions ou à des messes ou d'autres choses de ce genre par l'égoïsme des parents qui prenaient le prétexte de la vie familiale pour garder les enfants à la maison. Mais bon, ça vaut pour les jeunes, ça vaut aussi pour les adultes. Hein, combien qui n'ont pas le temps de ceci, n'ont pas le temps de cela, mais qui trouvent bien le temps pour aller ailleurs. Bon, le soir. Alors, il y a une espèce d'individualisme, vous voyez, qu'il faut casser, qu'il faut savoir casser. Et ça, j'en parle tout simplement parce que je pense que c'est un obstacle à l'apostolat et que c'est un obstacle à l'esprit d'héroïsme chrétien, tout simplement. À l'esprit d'héroïsme chrétien. Je crois que c'est toute une mentalité, autrement dit, qu'il faut savoir briser. L'esprit missionnaire va avec l'esprit de sacrifice. Voyez. Donc il faut d'abord avoir l'esprit de sacrifice. Pour avoir l'esprit de la Pentecôte, il faut d'abord avoir l'esprit de sacrifice. Bon. Et puis l'esprit missionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire, l'esprit missionnaire? Mais ça veut dire tout simplement qu'on ne doit pas vivre en vase clos et qu'on doit s'intéresser au salut éternel de ceux qui nous entourent. Vous avez tous des voisins, des camarades de classe, des membres de votre famille, et là ça arrive aussi, des collègues de travail, etc., etc., qui sont en dehors de la vérité chrétienne, ou s'ils ont la foi, du moins n'en vivent pas véritablement, etc., etc. Eh bien, il faut comprendre que vous en avez une part de responsabilité. Il ne faut pas dramatiser. Il y a des moments où on fait ce que l'on peut, et puis mon Dieu, on n'obtient pas de résultat. Ça, c'est pas si facile que ça, bien sûr. Mais il faut voir que vous en êtes responsable. Et je pense que cette prise de conscience que vous avez tous du salut éternel de ceux qui vous entourent, de la responsabilité sur le salut éternel de ceux qui vous entourent, c'est très important que cet esprit se dit que vous en fassiez part aux autres. Il faut bien comprendre que dans la situation présente, nous autres prêtres, nous sommes beaucoup trop éloignés. Nous sommes trop peu nombreux. Autrefois, il y avait au moins un prêtre par paroisse. Donc sur un certain territoire, vous aviez au moins un prêtre qui pouvait visiter les familles et qui pouvait parcourir les rues du village, voir monsieur un tel, parler avec les gens, bon, qui pouvait assurer une présence chrétienne et se préoccuper un peu de tout. Bon. Aujourd'hui, ça n'est plus possible pour l'instant. Ben, c'est comme ça. nous sommes trop peu nombreux. Alors, si ce n'est pas vous qui parlez du Christ, eh bien, c'est personne. Et c'est la même chose dans les écoles et dans les collèges, même et surtout si ce sont des collèges religieux. Il y a des âmes qui attendent, même si elles se disent athées. Il ne faut pas trouver inutile, n'est-ce pas, de l'apostolat quand on s'adresse à des gens qui sont tout à fait à l'opposé de nous. C'est souvent les plus facilement convertissables. Des gens qui sont franchement athées sont plus proches de nous en définitive que des chrétiens qui n'ont pas de ferveur. Parce que quelqu'un qui se dit athée, c'est au moins quelqu'un qui a réfléchi et qui a pensé à la question. C'est déjà un premier point. Le pire, c'est celui qui s'intéresse à rien. Oui. Alors, je crois qu'il ne faut pas mettre des barrières en disant « s'occuper de cette personne, ça ne sert à rien. » Qui sait ? Vous dites ce que vous avez à dire, et il faut que quelqu'un le dise. Et vous savez, parfois, on doit avoir certaines réactions pour défendre la doctrine catholique, pour porter témoignage, et on se heurte à une hostilité très dure. Et on dit « ça ne sert à rien. » Mais détrompez-vous. Souvent, les réactions les plus dures viennent de ceux qui se sentent atteints, précisément, et que ça n'a pas laissé indifférent, et c'est pour ça qu'ils réagissent négativement. C'est pourquoi il ne faut jamais... Nous ne connaissons pas l'intérieur des cœurs. Il faut semer, et Dieu donnera le fruit. Et au moins, il faut que des choses soient faites. Je vous citerai un cas. Il y a quelques années, une jeune fille avait fait un camp MJCF, où ça nous fait, je pense, une quinzaine d'années. Bon, et puis, après le camp, rien du tout. On n'avait plus jamais entendu parler d'elle. Et puis, un beau jour, ça doit faire 3 ou 4 ans, eh bien, elle s'est adressée à un de nos prieurés.